Je ne sais pas, par ailleurs, si vous avez vu les images qui nous proviennent d'Afghanistan ces dernières heures, ces derniers jours. C'est absolument dramatique ce qui se passe là-bas. Le régime qui a été soutenu là, par les forces américaines depuis 20 ans s'est écroulé comme un château de cartes. Et les images qui nous proviennent notamment de l'aéroport de Kaboul sont à briser le cœur. Les images les plus spectaculaires, les plus tristes, là, évidemment. Il y a ces gens qui veulent embarquer dans des avions pour quitter un pays qui va tomber sous une dictature islamiste, celle des talibans. Mais il y a des gens qui se sont accrochés à des avions qui décollaient et on voit sur les images qu'après le décollage, ben, ces pauvres personnes-là, des hommes, là, je pense, là, des jeunes Afghans, sont tombés du haut du ciel. Bref, on va parler de ce qui se passe immédiatement en Afghanistan avec le journaliste Fabrice de Pierrebourg. Il était là l'été dernier. Et Valérie Beaudoin, notre nouvelle chroniqueuse politique américaine que j'accueille. Salut Valérie.
Bonjour Patrick.
Salut Fabrice.
Salut Patrick, salut Valérie.
Fabrice, écoute, tu étais il y a quelques semaines à peine en Afghanistan en reportage pour le magazine L'Actualité. Ça va être l'enfer sur Terre pour les Afghans qui ont goûté à la liberté et surtout ceux qui ont aidé les forces occidentales.
Tout à fait. Puis déjà, quand j'y étais, les talibans occupaient environ 50% du territoire. J'avais été dans le nord aussi, dans une ville, Mazar-e-Sharif, où ils essayaient d'entrer puis ils avaient été repoussés. Les habitants avaient pris les armes sous les ordres de seigneurs de guerre. Ça, c'est une autre plaie. Et j'avais rencontré surtout beaucoup de jeunes étudiants, de jeunes femmes qui... la plupart n'avaient même pas connu le régime taliban, parce qu'il faut savoir que la plupart des Afghans sont très jeunes, hein, de 60% à moins de 25-30 ans, où ils étaient enfants à ce moment-là. Et ces jeunes étudiantes, ces femmes qui opéraient des commerces, etc. et tout, se demandaient qu'est-ce qui allait se passer si les talibans venaient au pouvoir. Mais personne là-bas n'avait imaginé que ce retour au pouvoir se serait passé là, maintenant, quoi. Il était, à mon avis, inéluctable. Mais c'est sûr que maintenant, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer? Des échos qu'on a des régions qui ont déjà été conquises par les talibans expliquent toujours la même chose. Des femmes qu'on force à quitter le travail si elles sont en contact avec des hommes. Des étudiantes au-delà de 12-13 ans qui peuvent plus aller à l'école, etc., etc. Le retour de la charia, c'est avec des voleurs à qui on coupe les mains. Les talibans, officiellement, leur porte-parole disent non, c'est de la calomnie, tout. On va être inclusif, enfin inclusif. Disons que tout le monde aura sa chance dans l'Afghanistan nouveau, là, dans l'émirat islamique d'Afghanistan. Mais il reste à savoir ce qui va se passer une fois que les derniers occidentaux, les derniers soldats sont partis pour vrai, là. Une fois que peut-être qu'à Kaboul, ça va être peut-être entre guillemets plus modéré, plus soft. Mais dans les campagnes, l'endroit qui sont vraiment les terrains d'ancrage des talibans, donc de ces gens avec cette idéologie basée sur la charia, etc. et tout. On a beaucoup d'inquiétudes, c'est évident.
Valérie, il y a quelques semaines à peine, le président Biden disait qu'une débandade complète de l'armée afghane, entraînée par les Américains notamment, bien, c'était impossible, que les Américains ne seraient pas évacués sur le toit de l'ambassade comme on a vu à Saigon en 1975. Écoute, l'histoire vient de le rattraper. C'est la plus grosse bourde de sa présidence.
Oui, puis de son administration de façon générale, parce qu'aussi son secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui a dit il y a quelques jours, écoutez, ça ne se passera pas entre un vendredi puis un lundi que les talibans vont reprendre Kaboul.
Il avait dit ces mots-là exactement.
Oui, alors vendredi au lundi. Il vient de se le faire remettre au visage en disant, bien, vous avez dit ça, est-ce que vous étiez complètement dans le champ? Et on se défend en disant, bien, c'est la faute un peu des autres et en disant aussi qu'il y a une responsabilité chez l'armée afghane qu'on a financée, qu'on a entraînée. Donc les Américains, plusieurs dizaines de milliards de dollars qu'ils ont donnés pour les former, pour qu'eux reprennent le dessus et disent que finalement, ben, c'est la débandade, mais ce n'est pas la faute des Américains, c'est la faute des Afghans qui se sont laissés aller carrément.
Fabrice et Valérie, les Américains sont en Afghanistan depuis 2001. On va écouter ce que l'ancien président George Bush avait à dire à propos de la situation en Afghanistan. C'était en 2006.
The days of the Taliban are over. The future of Afghanistan belongs to the people of Afghanistan and the future of Afghanistan belongs to freedom.
Les jours des talibans sont finis. Les jours des talibans sont finis. Maintenant, c'est le temps de la liberté pour les Afghans. Fabrice, est-ce que c'était prévisible que les talibans allaient reprendre le pouvoir? Est-ce qu'il y a déjà eu un espoir que les talibans seraient hors jeu définitivement?
Non. Et puis, d'ailleurs, 2006, c'est précisément l'année où les talibans ont recommencé leurs opérations insurrectionnelles et les Canadiens qui ont été affectés dans la région de Kandahar comme militaires s'en souviennent très bien. Donc en fait, ce qui s'est passé ce week-end, c'est l'aboutissement d'une reconquête patiente, lente, d'individus qui ont commencé à penser à ça dès 2006. Donc c'était très concentré dans le sud, petit à petit ils sont remontés. Et en fait, faut remonter aux accords de Doha, qui ont été au Qatar, qui ont été initiés par Donald Trump en 2020, les fameux accords de paix, entre guillemets, en février 2020, qui prévoyaient le départ des troupes américaines et donc de l'OTAN avant une certaine date. Et à partir de ce moment-là, les talibans avaient un échéancier très précis et ils se sont collés sur cet échéancier. Ils ont rempli le vide des troupes étrangères qui quittaient. Et finalement, les Américains se sont fait mystifier parce que ces accords de Doha, la seule chose aujourd'hui qui a été respectée, c'est le départ des troupes étrangères. C'était un accord de paix, c'est quelque chose qui devait aboutir au moins à un régime de transition, un régime avec forcément des représentants talibans, mais un peu de tout le monde, mais en aucun cas à la débâcle qu'on a vue ce week-end. Et puis la débâcle de l'armée afghane, c'est quelque chose qui est spectaculaire. Je veux dire, les Américains vont être hantés longtemps par les images dont tu parles aujourd'hui à l'aéroport, les images des hélicoptères sur le toit effectivement de l'ambassade, mais de tous ces talibans qui, depuis un mois ou deux, paradent, se déplacent dans des véhicules Humvee fournis par l'armée, par les Américains à l'armée afghane, de l'équipement fourni par les Américains, les Canadiens, tout ce que tu veux, l'armée afghane, et qui n'ont servi à rien.
Valérie, c'est un fiasco, là, c'est une débandade ces derniers jours qui se déroule sous le président Biden. Mais c'est une responsabilité partagée, il faut le dire. Les accords de Doha, là, c'était sous le président Trump. C'est lui qui voulait, qui a scellé, dans le fond, ce que les Américains voulaient depuis longtemps, quitter l'Afghanistan, le retrait militaire, etc. Mais le prix politique, c'est Biden qui va le payer.
Oui, Biden, c'est le quatrième président à gérer la crise en Afghanistan. Oui. Il dit, je veux pas remettre ça à un cinquième président, donc je veux agir rapidement. Et Donald Trump, en ce moment, et Joe Biden, on s'échange les blâmes. Hein? On dit que c'est de la faute l'un de l'autre, que c'est la faute de Trump, justement, qui a pas bien négocié le départ des troupes américaines. Et de l'autre côté, Donald Trump, écoute, appelle à la démission de Joe Biden en disant que vraiment c'est tellement un fiasco qu'il devrait quitter la présidence, en disant aussi que de toute façon c'est pas le président légitime, donc ça coûterait rien qu'il quitte la Maison-Blanche. Et ce qu'on dit, c'est que Trump aurait, et les républicains ce qu'ils disent, c'est que la façon de se retirer de l'Afghanistan, qu'on l'aurait fait sous des conditions qui avaient été négociées, mais là on peut pas savoir, on peut pas voir ce qui se serait passé si c'était Donald Trump le président. Mais chose certaine, on continue de s'échanger la culpabilité d'un côté et de l'autre.
Fabrice, tu as fait des reportages en Afghanistan. Explique aux gens qui nous écoutent comment des guérilleros en sandales et en motocyclette ont pu renverser l'armée afghane qui était plus nombreuse, plus équipée et entraînée depuis 20 ans par la plus grande armée du monde, la plus puissante armée du monde, celle des Américains.
Et d'ailleurs, je fais une petite allusion. Il y a un taliban qui a tweeté hier une photo de deux combattants qui piétinent le drapeau américain. Ils ont mis « Quand les motocyclettes arrivent à dompter, finalement, à mater les B-52 et les F-35 », c'est un peu plus complexe que ça. Je pense que, puis à la base, moi, ce que je répète toujours dans ces cas-là, c'est qu'on a confondu victoire militaire, rapide, en décembre 2001, à victoire idéologique. Et la différence, effectivement, entre talibans et bien d'autres groupes, c'est que ce sont des gens qui sont fondamentalement convaincus de la justesse de leur cause, qui ont un ancrage très fort dans certaines régions d'Afghanistan et qui ont préparé ce retour en force, comme je disais, depuis 2006, mais plus récemment, en concluant des accords avec des seigneurs de guerre, avec des figures locales dans certaines régions, ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont même pas eu besoin de combattre. C'est-à-dire que oui, il y a des gars en sandales sur des motos, il y en a qui ont récupéré du matériel. Ils ont quand même quelques unités combattantes plus perfectionnées, mais dans certains cas, ils n'ont même pas eu besoin de combattre. C'est un boulevard qui s'est ouvert vers eux jusqu'à Kaboul. Et pourtant, ils sont quatre fois moins nombreux que l'armée afghane et ils n'ont pas le support aérien que leur fournissait la coalition et qui est a disparu petit à petit, quoi.
Merci, Fabrice. C'était Fabrice de Pierrebeau. On va pouvoir lire ton reportage dans le magazine L'Actualité là, sur ton séjour en Afghanistan prochainement. Merci, Valérie Beaudoin.
Avec
excellente
plaisir.
Première chronique. Merci.